Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour s'intitule « Un retour en arrière ». En Luc 18, verset 8, Jésus a posé une question surprenante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sans répondre directement à cette question, les apôtres de Jésus ont plus tard émis plusieurs avertissements comme bon nombre de chrétiens seraient détournés de la vraie foi par de faux prophètes et faux docteurs. Ils ont prédit une grande apostasie, c'est-à-dire un abandon de la vérité. Ces prophéties se sont accomplies dans les siècles qui ont suivi la mort des apôtres. Bien que les hommes continuent de se considérer comme étant chrétiens, beaucoup sont tombés dans la même sorte de piège que les Juifs que Paul décrit en Romains 10, versets 2 et 3. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Bien qu'ils se voient comme étant toujours dans la bonne voie, ils ne le sont pas. Les paroles de Jésus en Marc 7, versets 8 et 9 les décrivent trop bien. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quelle est la solution à ce problème d'apostasie? Très simplement, c'est un retour en arrière. Il y a une tendance à toujours penser que ce qui est nouveau est meilleur. On parle de progrès, d'évolution, d'amélioration, de développement, etc. On pense que l'Église a besoin de changer avec les temps, de s'adapter aux différentes cultures et aux différentes mentalités au cours des âges, de se rendre moderne. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Église a été conçue par celui qui a créé tous les hommes. Non seulement il connaît parfaitement l'être humain et son caractère, mais il a toute l'intelligence et toute la sagesse nécessaires afin de pouvoir une voie qui convienne aux besoins de tous les hommes, quel que soit leur pays, quelle que soit leur époque. Ni le message de l'Évangile, ni la nature de l'Église n'ont besoin d'être améliorés ou adaptés par les hommes. En lisant le Nouveau Testament, il est évident qu'il y avait dans la pensée de Dieu un modèle pour son Église, un modèle qu'il a révélé aux hommes inspirés et qu'ils avaient le devoir de respecter et d'enseigner aux autres, sans y apporter leurs propres modifications. Quand Dieu ordonna à Moïse de faire construire le tabernacle, un lieu d'adoration pour les Israélites, Moïse devait suivre un modèle. Hébreux 8, verset 5 nous rappelle cette nécessité. Il dit que Moïse fut averti par Dieu en ces termes : Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Dieu ne laissa pas aux Israélites la liberté de décider de quelle manière ils le serviraient. Dans le Nouveau Testament, pareillement, il est clair que le Seigneur lui-même a décidé ce que son Église doit faire et enseigner, ce à quoi elle doit ressembler. Jésus a parlé sévèrement de ceux qui délaissaient les choses que Dieu avait ordonnées et qui instituaient des pratiques d'origine humaine. Il dit « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc chapitre 7, verset 7. Il ressort clairement des épîtres de Paul qu'il enseignait la même chose partout où il allait. Ce n'est pas que la culture était pareille dans tous les pays où il travaillait. Au contraire, Les gens de Lystre et de Derbe étaient considérés comme ignorants, superstitieux et presque sauvages. Les Corinthiens étaient des gens mondains qui poursuivaient avant tout le luxe et le plaisir sexuel. Ceux de Philippe étaient fiers de leur citoyenneté et culture romaine, qui les distinguait des villes grecques aux alentours. La force des Éphésiens, c'était la magie. La gloire des Athéniens, c'était la philosophie. Chaque ville, chaque pays avait ses propres cultures et mentalités. Mais l'apôtre était convaincu que tous avaient besoin du même enseignement. Il recommandait les mêmes pratiques partout. Et pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il y avait un modèle donné par le Seigneur et auquel il devait être fidèle. Considérez les expressions suivantes tirées de ses écrits. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. 1 Corinthiens 7, verset 17. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, verset 23. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, verset 34. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saine parole que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt. 2 Timothée 1, verset 13 et 14. Au vu de ce langage, nous pouvons dire qu'un retour en arrière dans les choses de Dieu est tout à fait désirable, voire nécessaire. Après tout, pousser en avant ne nous amène pas toujours là où il faut. Si l'on a pris un mauvais tournant et qu'on ne suit plus la bonne direction, on n'arrivera jamais où on veut aller, à moins qu'on ne reconnaisse et corrige son erreur. Voilà pourquoi le prophète Jérémie dit à ses compatriotes qui avaient abandonné la loi de Dieu, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Peut-on retourner en arrière? Parfois il n'y a pas de choix si l'on veut arriver à bon port. Mais par quels moyens pouvons-nous retrouver la pureté et la simplicité du christianisme originel? Est-ce vraiment possible de retourner en arrière, de reprendre des pratiques qui appartiennent à une autre époque, de retrouver ce qui a été délaissé par ceux qui nous ont précédés? Plusieurs exemples bibliques nous montrent qu'il est tout à fait possible de le faire. Prenons-en deux. Deux Chroniques 34 et 35 nous parlent du roi Josias, qui a régné sur le royaume de Juda environ 600 ans avant Jésus. Le père et le grand-père de Josias, qu'il avait précédé sur le trône à Jérusalem, avaient pratiqué toutes sortes d'idolâtries criminelles. Pendant leur règne, la maison de l'Éternel était tombée dans un état déplorable. Arrivé au pouvoir, le jeune roi Josias a tout fait pour débarrasser le pays des idoles et pour ramener les hommes vers l'Éternel. Il a aussi donné l'ordre de réparer le temple de Dieu à Jérusalem. Après plusieurs décennies de négligence, il a fallu un grand nombre d'ouvriers pour le rénover. Au cours de ces travaux, un sacrificateur a découvert un livre. C'était la loi de l'Éternel, donnée par Moïse, la loi qui devait gouverner tous les Israélites en tant que peuple de Dieu. Ce sacrificateur a remis le livre à un ministre du roi, qui l'apporta à Josias et lui a fait la lecture. La Bible dit, « Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. » Le roi donna cet ordre à ses serviteurs, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » De Chroniques 34, versets 19 à 21. Par la suite, Josias a convoqué tous les habitants du pays pour une lecture publique du livre de la loi. Le roi avec son peuple s'engagèrent alors à observer tout ce qui était écrit dans le livre de Dieu. Dans ce même mois, la nation d'Israël devait, selon la loi de Moïse, observer une fête importante, qui était la Pâque. Ne confondez celle-ci avec la fête des Pâques célébrée de nos jours. La Pâque juive en question commémorait la délivrance que Dieu accorda aux Israélites au temps de Moïse, après 400 ans d'esclavage en Égypte. Sous la direction du roi Josias, le peuple a donc obéi à toutes les ordonnances concernant la Pâque. Mais ces ordonnances avaient été négligées en Israël depuis plus longtemps que les règnes du père et du grand-père de Josias. Deux Chroniques 35, verset 18 nous dit « Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète. » Cela veut dire que la volonté de Dieu à cet égard n'avait pas été respectée depuis environ 4 siècles. Mais grâce aux instructions dans le livre de la loi, Josias et son peuple ont pu restaurer l'observance de la Pâque. Un autre exemple se trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Il s'agit du temps après le retour des Juifs de leur captivité de 70 ans à Babylone, et encore il est question de l'une des 3 grandes fêtes juives. Comme cela avait été ordonné, le peuple s'est assemblé à Jérusalem le premier jour du 7e mois de l'année juive, et le scribe Esdras lut publiquement dans le livre de la loi. Comme au temps de Josias, il y a eu un grand remords, car le peuple a découvert que la loi de Dieu n'avait pas été suivie. Mais ce remords fut suivi d'un empressement de mieux faire. Nous lisons à partir du verset 14. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Néhémie 8, versets 14 à 17. Cette fois-ci, il s'agit d'un ordre de Dieu auquel on n'avait pas obéi en grand nombre depuis environ 1000 ans. Mais ce n'est pas parce que leurs ancêtres n'avaient pas obéi à la parole de Dieu sur ce point depuis le temps de Josué que les Juifs du temps d'Esdras et Néhémie n'allaient pas mettre en pratique ce qu'ils ont lu. Ils ont constaté et regretté l'apostasie de leur père en ce qui concerne la fête des tabernacles, mais puis ils ont pris la résolution d'obéir à la parole là où ils ne l'avaient pas fait auparavant. Pour résoudre le problème de l'apostasie, il faut revenir en arrière. Il faut reconnaître que les hommes ont fait fausse route en abandonnant les pratiques et les doctrines des apôtres de Jésus, et que la seule solution est de revenir à la source, c'est-à-dire au Nouveau Testament, qui nous montre l'Église telle que le Seigneur l'a voulu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quand même assez simple. Comme les Juifs du temps de Josias ou de Néhémie, nous devons chercher à savoir ce que la parole dit et nous résoudre à la mettre en pratique, sans tenir compte des manquements de ceux qui nous ont précédés. C'est ainsi que nous connaîtrons réellement la faveur de Dieu.
Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, parle Seigneur.
Parle, parle Seigneur, ton serviteur.